Le journal est présenté par Fabienne Joigneault.
Bonsoir. Un vaccin très prometteur contre le virus Ebola. Il a été testé avec succès en Guinée, dans l'entourage de malades. Médecins sans frontières appelle à élargir rapidement l'expérience. La Scopsi France n'existe plus. Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la coopérative qui exploitait les ferries entre Calais et Douvres. La mesure va permettre de payer les salaires, mais les marins s'inquiètent pour leur avenir. Une frappe stratégique réussie pour la coalition internationale de lutte contre Daesh. Elle a détruit deux ponts, point de passage entre l'Irak et la Syrie. Cela reste toutefois un petit pas, vous entendrez l'analyse d'un spécialiste de l'IRIS. Pékin entre dans l'histoire olympique, la capitale chinoise sera la première ville à réaliser le doublé jeux d'été, jeux d'hiver. Elle a été choisie pour les JO 2022 et grâce à son expérience, malgré son faible enneigement et aussi faute de combattants, nous expliquera Cyril Péter. C'est une grande lueur d'espoir pour les pays touchés par Ebola. Selon l'OMS, un vaccin est à portée de main contre ce virus qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé et la revue scientifique britannique The Lancet ont dévoilé à la mi-journée les premiers résultats d'une large étude clinique menée en Guinée. Plus de 7 600 personnes ont été vaccinées en 4 mois. Il s'agit de proches de malades, le but étant de former un cordon sanitaire pour enrayer l'épidémie. Et les résultats sont plus qu'encourageants, puisque le VSV Ebov a prouvé son efficacité à 100%. Pour Rebecca Gress, épidémiologiste à Médecins sans frontières, il faut prolonger l'essai.
Ça, c'est le résultat intermédiaire de cette étude. Mais en voyant l'ampleur de l'urgence pour la santé publique en général, pour nous, en tant qu'MSF, on doit pousser à continuer à utiliser ce vaccin afin de protéger ceux qui sont exposés et également pour les travailleurs de première ligne au plus vite, non seulement en Guinée, mais en Sierra Leone et en Libéria également. Ce que ça fait, c'est que ça ajoute un autre outil qui peut être très utile et très prometteur. On espère de finir cette épidémie qui traîne maintenant depuis 16 mois. C'est très important, un, de rappeler que l'épidémie, ça continue. Et aussi de rappeler que toutes les prises en charge des cas, l'isolement des patients, les enterrements dans des conditions sûres, la promotion de l'information sur la maladie en elle-même, un soutien psychosocial pour les personnes affectées, tout ça devrait être continué, mais encore plus renforcé dans cette partie de l'épidémie qu'on espère finir bientôt.
Des propos recueillis par François Sauvestre. Il n'y a pas d'accord entre la France et la Russie sur le dossier Mistral. Moscou avait annoncé hier soir avoir obtenu le principe d'un remboursement de plus d'un milliard d'euros de la France pour la non-livraison de ces deux navires militaires. François Hollande a démenti cet après-midi lors d'un déplacement dans le Lot. Il prendra sa décision dans les prochaines semaines. Le chef de l'État qui discute en ce moment avec le Premier ministre britannique David Cameron sur la question des migrants et de la sécurité du site d'Eurotunnel. Calais, la colère des marins de la Scopsi France s'est de nouveau exprimée aujourd'hui. Blocage de l'accès au port, opération escargot sur l'autoroute. Près de 300 manifestants ont dénoncé l'insuffisance des mesures de l'État pour sauvegarder la compagnie My Ferry Link avant d'apprendre à la mi-journée que leur coopérative était placée en liquidation judiciaire. Une décision qui plonge ces marins dans de nouvelles incertitudes. Les explications de Marie Mutricy de France Bleu Nord.
Les salaires sont assurés jusqu'au 15 août. Ensuite, les lettres de licenciement arriveront. Préalable obligatoire à la création d'une nouvelle SCOP de 150 salariés qui exploiterait le dernier navire de fret que possède Eurotunnel. Sur ce versant-là du dossier, il ne manque plus qu'un engagement écrit. Mais entre les salariés et l'autre repreneur, le danois DFDS, les discussions sont bloquées. Éric Vercoutre est le secrétaire général du syndicat maritime Nord.
Quel que soit le CDI qui est embauché à Calais, il n'est pas assuré de travailler sur la liaison entre Calais et Douvres. Il peut aller dans n'importe quel port. Donc chaque Calaisien qui sera embauché peut aller à Dieppe, peut aller à Bordeaux ou règne le pavillon DFDS français.
DFDS pourrait reprendre 200 salariés. Les négociations vont donc continuer.
Nous, on veut avoir des avancées sur d'abord le plan social, puisque aujourd'hui le plan social est nul, hein, et sur l'engagement que tous les salariés qui vont être embauchés par BFDS touchent le port de Calais et Douvres.
En attendant, la paralysie du port de Calais est toujours possible. Ce dossier a déjà coûté 7 millions d'euros à l'infrastructure, selon le concessionnaire, sans compter les conséquences pour l'activité de la trentaine d'entreprises de transport routier de la région.
C'est une entreprise historique de l'industrie du 7e art. Éclair Group va être repris par la société Imagis, spécialisée dans les services dédiés au cinéma numérique. Décision aujourd'hui du tribunal de commerce de Nanterre. Éclair Group était en redressement judiciaire depuis le 18 juin. Pas de surprise dans la carte des futures capitales régionales proposées par le gouvernement. Lille, Rouen et Dijon ont été choisis, plutôt qu'Amiens, Caen et Besançon. Ce choix ne sera toutefois définitif qu'après consultation des assemblées régionales qui vont être élues en décembre. Certains services de l'État pourront être localisés dans les anciennes capitales pour équilibrer les choses. Le gouvernement veut favoriser l'accueil de patients étrangers en France. Les ministres de la Santé et des Affaires étrangères, Marisol Touraine et Laurent Fabius, ont annoncé des mesures qui doivent être mises en œuvre d'ici la fin de l'année pour développer ce marché prometteur. Mesures d'allègement des démarches administratives notamment et de communication. D'après le rapport d'un économiste rendu public en février dernier, le tourisme médical pourrait générer 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans et permettrait de créer 25 à 30 000 emplois. La route entre la Syrie et l'Irak sera plus longue et plus dangereuse désormais pour les djihadistes de l'organisation État islamique. La nuit dernière, des frappes aériennes de la coalition internationale ont détruit deux ponts près de la frontière. L'un d'eux reliait Boukamal en Syrie à Ramadi, la deuxième grande ville d'Irak après Mossoul à avoir été occupée par Daesh. Mais cette double destruction n'est qu'un succès relatif, comme l'explique Karim Pagzad, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Irak.
Finalement, ils ont renoncé à attaquer la ville frontalement parce qu'il y a encore quelques 100 000 personnes dans la ville. Ils ont décidé de couper les voies de communication au sud de la ville de Ramadi, entre Fallujah et entre Ramadi et la Syrie au nord. Et comme on sait que l'essentiel des forces de l'État islamique se trouve en Syrie, c'est à partir de là qu'ils ravitaillent leurs combattants. Militairement, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant pour chasser Daesh de l'Irak. Pour cela, il faudrait une coordination entre différentes forces, entre les forces chiites, entre les forces gouvernementales, entre les forces kurdes, entre les forces américaines, les autres pays membres de la coalition. Il faut faire pression contre la Turquie pour qu'il abandonne quand même sa politique compromettante vis-à-vis de l'État islamique, etc., etc. L'une des faiblesses de la coalition, c'est que le gouvernement irakien a publiquement dénoncé. Il n'y a pas suffisamment de volonté pour lutter contre Daesh. Si les Américains ou les autres forces aériennes voulaient les stopper, ils auraient pu le faire.
Karim Pagzad, spécialiste de l'Irak à l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique, joint au téléphone par Suzanne Chojaï. Par ailleurs, le Front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a revendiqué l'enlèvement hier dans le nord de la Syrie de rebelles formés par les États-Unis. La Tunisie prolonge l'état d'urgence jusqu'à début octobre au nom de la guerre contre le terrorisme, mais sans faire état de menaces précises. Depuis un mois et l'attaque de vacanciers sur une plage qui avait fait 38 morts, les forces de l'ordre bénéficient de pouvoirs d'exception. Les autorités peuvent contrôler les médias. Pour le Syndicat national des journalistes tunisiens, cette situation fait peser de vrais dangers sur la liberté de la presse. Le Fonds monétaire international va accorder un nouveau prêt à l'Ukraine, 1,7 milliard de dollars, et ce malgré les incertitudes sur la dette du pays et sur le conflit dans l'Est séparatiste. L'Ukraine est un cas encourageant, explique Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, souligne la détermination des autorités à changer le visage du pays. C'est donc Pékin qui accueillera les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Le Comité international olympique l'a annoncé aujourd'hui. La capitale chinoise, déjà organisatrice des JO d'été 2008, a été choisie malgré un certain nombre de handicaps. Mais il faut dire, Cyril Péter, que le CIO n'avait pas vraiment l'embarras du choix. Il y a eu beaucoup de défections.
Tous les candidats européens ont jeté l'éponge. À Munich et à Saint-Moritz, les habitants ont été consultés, ils ont dit non. À Lviv, en Ukraine, la guerre dans l'Est a changé la donne. D'autres candidats, comme Oslo et Stockholm, ont reculé à cause des coûts pharaoniques pour organiser des Jeux d'hiver, avec l'exemple russe à Sotchi l'an passé. Résultat, la finale était 100% asiatique. Pékin contre un novice, Almaty, l'ancienne capitale du Kazakhstan, qui n'est pas non plus un modèle de démocratie. La question des droits de l'homme n'a donc pas été prise en compte par le CIO, aux grandes dames des ONG. Et donc, plutôt que de parier sur la candidature kazakh, le CIO a joué la sécurité. Pékin, c'est le choix de l'expérience, selon le président allemand du comité. L'avantage, c'est qu'après les JO d'été de 2008, Pékin va recycler son village olympique et son stade olympique pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Mais elle va aussi devoir utiliser de la neige artificielle dans une région où l'eau est rare. Les épreuves de saut et de ski de fond se dérouleront dans les montagnes, à 200 km au nord-ouest de Pékin. près de la ville de Zhangjiakou. Pour la relier, un TGV sera construit. Le projet est estimé à plus de 4 milliards d'euros, un coût qui ne figure pas dans le budget présenté au CIO par Pékin.
Des pluies orageuses dans le sud-est, du soleil ailleurs. D'après Météo France, il fera 10 à 15 degrés demain, 23 à 27 l'après-midi.